Nous continuons. Et nous avons fini le chapitre 14. Donc, nous passons au chapitre 15 avec la liberté et le troisième C après la conviction, après la bonne conscience, maintenant la considération de l'autre, qu'on avait déjà vu, bien sûr, dans le texte, puisque, comme on l'a dit, il y a des éléments qui se répètent, hein, on progresse. Mais c'est une des parties du texte, et comme on le retrouve de façon spéciale ici au chapitre 15, c'est pour ça qu'on l'a mis ici comme titre, la considération de l'autre. Mais nous devons, nous les forts, porter les infirmités des faibles et non pas nous plaire à nous-mêmes. Que chacun de nous cherche à plaire à son prochain en vue du bien, pour l'édification. En effet, le Christ n'a pas cherché à plaire à lui-même, mais comme il est écrit, les outrages de ceux qui t'outragent sont tombés sur moi. Car tout ce qui a été écrit auparavant l'a été pour notre instruction, afin que par la patience et par la consolation des Écritures, nous ayons espérance. Alors, les forts et les faibles. C'était finalement déjà le sujet de toute notre lecture, sauf que vous avez remarqué qu'en fait, les forts, eh bien, il n'en a jamais été parlé. C'était sous-entendu pour le moment. Jusqu'à présent, c'était sous-entendu. Les faibles, ils étaient apparus déjà trois, quatre fois. Donc, c'est la quatrième mention, donc déjà trois fois. Mais les forts, c'est la première fois. Peut-être parce que le titre est quand même très risqué, hein, de s'appeler les forts. C'est risqué. En plus, l'apôtre dit nous les forts, donc il se met parmi eux. Mais ça n'arrive qu'à la fin, quand on a déjà bien compris le mécanisme de balancier et d'équilibre. Mais voilà, il prend le risque d'utiliser le vocabulaire fort. Et puis, les faibles, donc c'est déjà la quatrième mention. On a déjà eu trois fois un autre mot, et là, on a adunatos. Dunatos, c'est fort. Adunatos, c'est pas fort. Donc le faible ici, c'est le pas fort. Nous les forts et les pas forts. Alors arrive une nouvelle dimension dans cette conversation entre forts et faibles, eh bien le Christ. Le Christ, c'est une nouveauté parce que on a ici maintenant le Christ comme exemple. Exemple du Christ, nouveauté dans cette dernière partie. Et le Christ n'a pas voulu plaire à lui-même. Il a voulu plaire à Dieu. Et quand il prend sur lui les moqueries, les outrages, parce qu'il plaît à Dieu, il est un exemple. Et finalement, si nous renonçons à user de notre liberté pour nos frères, peut-être que nous allons avoir l'air de ressembler à des faibles. Peut-être que quelqu'un va se moquer de nous. Peut-être va-t-on nous traiter d'étroits. Eh bien, c'est pas grave. Lui, il a aussi porté les outrages de Dieu, il les a portés sur lui, comme si c'était les outrages qui étaient les siens. Et puis, il y a dans la considération de l'exemple du Seigneur, il y a aussi la pensée que nos sacrifices pour nos frères sont petits par rapport au sacrifice du Seigneur pour nous. Donc, lui, il a porté sur lui tant de choses pour nous, son sacrifice, ses sacrifices, sa vie de service est tellement plus grande que les petits sacrifices que l'on pourrait vouloir faire pour nos frères. Et le fait de ressembler au Seigneur et de le regarder, c'est bien sûr quelque chose qui nous encourage dans la façon de vivre avec nos frères et sœurs. Donc, qu'est-ce qui nous est proposé? De porter les infirmités des faibles, de plaire à notre prochain, dans le but du bien de l'édification. L'idée, ce n'est pas de mépriser le faible, comme on l'a vu, mais pas non plus d'en être agacé. Au contraire, de porter son infirmité, finalement sa faiblesse, de la comprendre, de la porter. Et donc c'est une très belle attitude. plaire à son prochain. C'est les mêmes mots que plusieurs fois dans les épîtres, par exemple en Corinthiens 7, comme on plaît à sa femme, comme on plaît à son mari, faire plaisir, plaire à l'autre. Et en vue du bien pour l'édification. C'est en vue de son bien et de son édification. Mais c'est aussi le bien de l'Église et l'édification de l'Église. Et c'est aussi mon bien et mon édification. Donc vous remarquerez un morceau de phrase totalement ouvert. C'est en vue du bien pour l'édification. Donc ça va dans toutes les directions. C'est l'autre, c'est l'Église, c'est moi qui vont profiter de cette attitude où on considère l'autre, où on est prêt à des sacrifices, où on porte la faiblesse de l'autre, où on veut faire plaisir à l'autre. Et au moment où il fait cette citation de l'Ancien Testament, eh bien, il rebondit pour nous rappeler que ce qui a été écrit auparavant l'a été pour notre instruction, afin que par la patience et la consolation des Écritures, nous ayons espérance. Ce qui a été écrit auparavant. Donc, il nous fait une citation pour nous tourner les yeux vers le Seigneur, qui est un exemple. Et parce qu'il vient de faire une citation, eh bien, il nous encourage à lire la parole et à nous laisser finalement transformer par les Écritures. Pas que par de la connaissance, ça serait l'instruction, mais il y a aussi de la patience envers mon frère, la consolation, l'espérance. Et ce qui a été écrit auparavant, eh bien, au moment où il écrit, en fait, il fait référence à l'Ancien Testament. Parce que c'est finalement l'Ancien Testament qui était les seuls écrits disponibles à ce moment-là. Et l'exemple du Christ, c'est vraiment intéressant que quand il va nous proposer un exemple du Christ, eh bien, il nous cite l'Ancien Testament pour nous parler du Christ. Nous, quand on cherche un exemple du Christ, on cite les évangiles. Ou bien certaines expressions des épîtres qui parlent de lui. Mais voilà, lui, l'apôtre, n'avait que les écrits de l'Ancien Testament à sa disposition, et au moment où il veut nous parler du Christ, eh bien, il nous cite un verset de l'Ancien Testament. Donc ça, c'est vraiment très intéressant, ça nous montre d'abord la richesse de l'Ancien Testament, ça nous montre que on voit le Christ dans l'Ancien Testament, que quand on veut parler de lui, on trouve dans l'Ancien Testament beaucoup de choses. Et puis ça nous explique une fois de plus pourquoi on a aussi peu dans les écrits de Paul de moments où il nous raconte un épisode de la vie du Christ. Il y en a quelques-uns, par exemple l'institution de la scène, il nous raconte comment ça s'est passé dans la chambre haute, etc. Il a pris du pain, mais ça n'arrive pas très souvent. Mais dans notre lecture ce soir, on a vu plusieurs fois des allusions à l'enseignement du Christ et ici à son exemple. Et pour illustrer l'exemple, il prend un texte de l'Ancien Testament parce que c'est la Bible disponible à l'époque. Aujourd'hui, nous avons une Bible complétée grâce au Nouveau Testament. Donc, on est encouragé par les deux testaments. Les deux ont été écrits auparavant pour nous maintenant. Eh bien, instruction, patience, consolation. Voilà tout ce que l'Écriture nous apporte. Elles forment notre caractère, elles imprègnent notre vie, pas seulement nos têtes, et elles nourrissent notre espérance. Or, que le Dieu de patience et de consolation vous donne d'avoir entre vous un même sentiment selon le Christ Jésus, afin que d'un commun accord, d'une même bouche, vous glorifiez le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi recevez-vous les uns les autres, comme aussi le Christ vous a reçus, à la gloire de Dieu. Que Dieu vous donne. Que Dieu vous donne, c'est une prière. Nous arrivons vers la fin de notre lecture sur la liberté chrétienne. Nous arrivons aussi bientôt vers la fin de la partie enseignement de toute l'épître aux Romains. Et il y a ici une première prière. Que Dieu vous donne. Après la parole, la prière. Pour nous aider à être patients envers nos frères et pour les supporter, pour porter leurs infirmités. Frères et sœurs plus jeunes, peut-être dans la foi, ou plus faibles, tout simplement, que Dieu vous donne. Après la parole, la prière. Et il est le Dieu de patience et de consolation. Voilà un très beau nom qui est ici proposé, qui est créé, un nouveau nom de Dieu. Nous savons qu'il y a dans la Bible beaucoup, beaucoup, beaucoup de noms de Dieu. Et ici, voilà, un beau nom de Dieu. Il est le Dieu de patience et de consolation. Et à ce titre, il est donc le Dieu des Écritures, puisque nous avions vu juste avant, verset 4, hein, que la patience est la consolation des Écritures. Et donc, il est le Dieu de patience et de consolation. Donc, il est le Dieu des Écritures, la patience et la consolation des Écritures. Un très beau don, nouveau nom de Dieu. Et ce Dieu de patience et de consolation nous donne d'avoir entre nous un même sentiment, pour un comme un accord, une même bouche. Donc là, côté vraiment de l'unité, même sentiment, comme un accord, même bouche. Ça ne veut pas dire la pensée unique. Ça ne veut pas dire tout le monde d'accord au sens tout le monde aligné sur une seule façon de voir. Ça serait la contradiction de tout ce qu'on vient de lire. Mais par contre, on a le même cœur. On est ensemble, on a le même sentiment. On a ensemble envie de glorifier le Seigneur. On a un commun accord, c'est-à-dire qu'on est ensemble. En Église, on a envie de vivre la communauté. Et même si l'un va respecter l'autre parce que les opinions sont différentes, eh bien, le désir est le même d'aller ensemble et d'adorer d'une même bouche pour glorifier Dieu. C'est donc un appel à la louange communautaire par l'unité. Et une unité qui est vraiment entretenue, favorisée par cette belle attitude qui nous est décrite dans notre chapitre 14 et 15, à savoir le support, l'acceptation de l'autre, le fait qu'on va considérer l'autre, on fait attention, on n'est pas égoïste, on est prêt à faire un sacrifice. Et c'est toute cette attitude-là qui va aider à une louange collective et à une unité vécue dans l'Église. Sachant que glorifier Dieu n'est pas forcément limité à la louange collective, on glorifie aussi Dieu dans notre vie, hein. Voilà, donc on a aussi un tableau ici des juifs et des non-juifs unis dans la louange, puisque notre chapitre s'applique peut-être d'abord aux juifs et aux non-juifs, mais c'est un très beau tableau que de les voir ensemble. Mais bien sûr, ça nous concerne nous aussi, quels que soient les sujets de divergence qui pourraient exister entre les uns et les autres. Et donc, toute notre vie, bien sûr, glorifie Dieu, pas seulement en réunion de l'Église et le Dieu de patience et de consolation avec les Écritures nous nourrit pour que notre vie le glorifie. Si on pense à la bouche ici, la bouche qui va glorifier le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Monsieur MacDonald, dans le commentaire du disciple, remarque que dans l'Épître aux Romains, la bouche intervient quatre fois. La première fois, c'est pour dire que la bouche est pleine de malédiction et d'amertume, Romains 3. Ensuite, elle va être fermée et tout le monde est coupable devant Dieu. Ensuite, elle va reconnaître Jésus comme Seigneur, parce que tu confesses de ta bouche. Et enfin, on glorifie Dieu. Et cette progression, une bouche pleine de malédiction, ensuite une bouche fermée parce qu'on est coupable, ensuite une bouche qui reconnaît Jésus comme Seigneur et enfin qui adore. C'est un peu le chemin du salut. Et c'est un joli résumé du chemin du salut, comme l'a remarqué M. McDonald. Les quatre bouches de l'épître aux Romains. Recevez-vous les uns les autres comme le Christ vous a reçu. On avait déjà pris ce verset au tout début, la dernière fois, il y a deux semaines, pour le rapprocher du verset 1 du chapitre 14, où cette réception était mentionnée au 1 et au 3. Et ici, nous retrouvons le mot, avec un parallèle entre recevez-vous les uns les autres comme aussi le Christ vous a reçu, qui fait penser à aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Et d'ailleurs, c'est très proche. Recevez-vous les uns les autres comme le Christ vous a reçu, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Et ce mot recevoir, nous l'avions commenté la dernière fois, proslambano, prendre comme compagnon, prendre par la main. Prendre ou recevoir dans sa maison avec l'idée de bonté, recevoir, permettre à quelqu'un l'accès à son cœur. Donc c'est vraiment très très proche de cet amour dont il est parlé ici. Et le Seigneur nous donne son exemple. De nouveau, il est l'exemple, il est le moteur de notre réception les uns vis-à-vis des autres, l'accueil dans une idée de bonté, accès au cœur, accès à mon cœur, accès au cœur de l'autre. Donc c'est cette réception ici dans l'Église qui a vraiment un sens large de l'amour et de l'acceptation de l'autre. Et lui-même, d'ailleurs, il a reçu les Juifs et les nations, comme la suite du texte va nous le dire. Donc, il nous a tous reçus. Et donc, notre comportement les uns avec les autres dans l'Église est un défi, bien sûr, mais quand il est bien vécu, c'est un sujet de gloire pour Dieu. Et au chapitre 1, verset 20, l'homme rebelle, celui du tout début de l'épître aux Romains, eh bien, qu'était-il dit sur lui? Il n'a pas glorifié Dieu. Et ne lui a pas non plus rendu grâce. Donc l'homme éloigné de Dieu, c'est quelqu'un qui n'a pas glorifié Dieu. Donc nous sommes invités à glorifier Dieu dans notre vie, et notre comportement les uns avec les autres contribue à cette glorification. Et le fait que le Seigneur nous a reçus et que nous nous recevions les uns les autres, eh bien ça aussi, c'est à la gloire de Dieu. En Jean 17, le Seigneur prie pour l'unité des chrétiens afin que le monde croie, afin que le monde connaisse que Dieu a envoyé Jésus. Donc l'unité des chrétiens, le commun accord, la même bouche, le même sentiment, eh bien ça a pour but que Dieu soit connu, que le monde croie, que le monde connaisse que Dieu a envoyé Jésus. Et donc tout cela, c'est à la gloire de Dieu. Ce qui fait que la façon dont des chrétiens vivent ensemble, eh bien, ça a beaucoup d'importance, puisque c'est ce qui va permettre de glorifier Dieu ou d'avoir une attitude qui est à la gloire de Dieu. On a donc clos le sujet de la liberté chrétienne dans ses différentes dimensions, avec l'équilibre entre celui qui risque de mépriser et celui qui risque de juger, avec le fait qu'on doit avoir des convictions fortes, mais une conscience bien établie et pas hésitante, et puis une considération de l'autre, pas d'égoïsme. Pas de jugement, mais pas d'égoïsme non plus. Et toute cette partie, et c'est aussi la fin de l'enseignement de l'épître aux Romains au sens enseignement, toute cette partie se termine par le Jésus pour les Juifs et pour les nations. Et en particulier, si on commence à lire le texte, je dis en effet que Jésus-Christ a été serviteur de la circoncision pour manifester la vérité de Dieu, afin de confirmer les promesses faites au Père, et afin que les nations glorifient Dieu pour sa miséricorde, ainsi qu'il est écrit. C'est pourquoi je te célébrerai parmi les nations, et je chanterai des cantiques à la gloire de ton nom. Circoncision, promesse, père, tout ça, ça fait penser aux Juifs. Nation, miséricorde, nation, ça fait penser aux nations. Les nations, c'est les non-juifs, qu'on peut appeler aussi les gentils, mais peut-être la nation, c'est plus facile à comprendre. Ce problème juif-non-juif, c'est vraiment le sous-entendu qu'on avait déjà depuis le début de notre lecture au chapitre 14, avec la nourriture et les jours de fête. Et on peut penser que les chrétiens de Rome étaient un mélange de juifs et de non-juifs, et que les tensions entre les deux étaient particulièrement vives, ou en tout cas risquées de l'être, et que c'est pour ça que l'apôtre prend autant de temps dans ce grand chapitre 14 et début du chapitre 15 pour en parler. Mais cela, maintenant, on comprend pourquoi il termine son sujet avec un rappel du fait que juifs et non-juifs sont unis ensemble par le Christ. Et on peut penser que les juifs, eux, ils ont plutôt des promesses, hein, les promesses faites à Abraham, les promesses faites au Père, les promesses liées à la loi, alors que les nations, finalement, elles n'avaient pas de promesses, mais elles ont obtenu miséricorde. Peut-être que le mot miséricorde est particulièrement adapté aux nations et le mot promesse particulièrement adapté aux Juifs. L'évangile est la puissance de Dieu pour sauver quiconque croit, le juif d'abord et aussi le grec. Hein. Le grec, c'est les nations. Donc, Romains 1, 16, c'était déjà très clair. Le salut de Dieu s'adresse aux deux familles, aux deux populations, aux deux groupes, le juif d'abord, historiquement, mais aussi peut-être moralement, dans le sens que c'était les premiers à qui il avait justement été fait des promesses, donc c'était à eux en premier que le salut a été annoncé. On se souvient du Seigneur Jésus qui annonçait par les villages et les villes de Galilée et disait à ses disciples de s'adresser uniquement aux Juifs. Quand il a fait un détour vers le nord du pays et que cette femme syrophénicienne criait après lui au sujet de sa propre fille, il ne lui répondait pas. Et quand elle insiste, il dit, mais il n'est pas permis de jeter le pain des enfants aux chiens, qui paraît particulièrement dur de la part du Seigneur. Mais si il a eu une phrase dure, c'était aussi parce qu'il avait en face du répondant. Hein. Il y avait une femme extraordinaire qui lui répond avec aplomb, oui Seigneur, mais même les chiens mangent des miettes qui tombent de la table des enfants. Sous-entendu, une petite miette de ta puissance me suffit. Oui, je suis un chien, je fais partie des nations. Donc chien, ça voulait dire les nations, hein, ceux qui étaient un peu méprisés par les Juifs. Et donc cette femme a un immense répondant et une très très grande foi, et le Seigneur admire sa foi et évidemment guérit sa fille à distance en plus. Donc, si le Seigneur lui a dit ça, c'est parce qu'il y avait du répondant, mais ça illustre quand même bien, et il l'a dit aussi à l'oreille des disciples, qu'il était envoyé vers les brebis d'Israël et pas vers les nations. Et ça, c'est sauver le juif d'abord, et aussi le grec, puisque le peuple juif ayant refusé son Messie, eh bien, tout le salut a été ouvert aux non-juifs. Ça faisait partie du plan de Dieu, évidemment, puisque de toujours Dieu voulait bénir les nations. Mais il y a donc un ordre, d'abord le juif et ensuite le grec. Alors Jésus-Christ a été serviteur de la circoncision. Il est venu pour servir son Père. Et serviteur de la circoncision, au sens qu'il a vraiment vécu une vie d'homme juif, parfait, accomplissant la loi, serviteur, à l'intérieur du cadre juif, du cadre de la circoncision, hein, qui est ici utilisé pour dire le monde juif, afin que les nations glorifient Dieu pour sa miséricorde. Donc il est venu comme serviteur dans l'espace juif, mais son œuvre est ouverte aux nations. Alors si on lit le texte de Jean 10, celui qui entre par la porte est le berger des brebis. À celui-ci, le portier ouvre et les brebis écoutent sa voix. Puis il appelle ses propres brebis par leur nom et les mène dehors. Et donc on peut penser que le début de Jean 10, ça s'applique exactement à cela. Il est entré par la porte de la circoncision, il est entré par la porte du judaïsme, il est entré par la porte des prophètes. Il est vraiment le Messie promis qui entre par la porte des Écritures, et c'est lui le berger des brebis. Le portier ouvre, et effectivement, les brebis d'Israël devraient écouter sa voix. Il les appelle, ce sont ses propres brebis, celles d'Israël, et il les mène dehors. Voilà. Le plan initial, Jésus-Christ, serviteur de la circoncision. Et la deuxième partie du chapitre 10 de Jean, mais j'ai d'autres brebis qui ne sont pas de cet enclos. Il faut que je les amène, elles aussi. Elles écouteront ma voix et il y aura un seul troupeau, un seul berger. Donc la notion de l'unité des juifs et des non-juifs est tout à fait déjà annoncée dans les évangiles par le Seigneur. Et il y a une distinction. Dans le temps, il y a une distinction parce que c'est deux groupes différents, mais le but, c'était de former un seul troupeau, un seul berger, et ça, c'est un jet de lumière sur ce que c'est que l'Église, puisque l'Église, c'est justement un seul troupeau, un seul berger, avec des juifs et des non-juifs qui sont réunis ensemble. Et ensuite, l'apôtre continue avec d'autres citations. Et j'ai mis... Et encore, parce qu'effectivement, on a trois fois le et encore, il dit, nation, réjouissez-vous avec son peuple. Et encore, louez le Seigneur, vous toutes les nations, et que tous les peuples célèbrent. Et encore, Ésaïe dit, elle paraîtra, la racine de Jessé, et il y aura quelqu'un qui se lèvera pour gouverner les nations. C'est en lui que les nations espéreront. Et encore, et encore, c'est comme s'il était enthousiaste, c'est comme s'il déroulait ici quatre en tout, avec les trois disciples plus celui d'avant, quatre textes des Écritures pour nous rappeler que les nations aussi eh bien, sont invitées à la table, sont invitées à la louange, sont invitées à être en relation avec Dieu. C'est comme s'il y a un émerveillement hein, autour de ces païens qui sont invités au salut. Et les quatre citations sont tirées de toutes les parties de la Bible de l'Ancien Testament, puisqu'on a une citation de Deutéronome, c'est la loi. On a deux citations des psaumes, c'est les psaumes. Et on a une citation, la dernière, des Ésaïe, des prophètes. Donc les trois grandes parties de la Bible ancienne, c'est loi, psaume et prophète. Et l'apôtre a ici choisi quatre citations tirées des trois parties, loi, psaume et prophète, pour vraiment établir son point. Et vous remarquerez que l'Église, elle est un mystère dans l'Ancien Testament. Donc l'Église n'est pas révélée dans l'Ancien Testament. Mais en revanche, la bénédiction des nations par Israël, ça s'est parfaitement révélé. Là, vous avez quatre exemples qui montrent que les nations vont se réjouir avec le peuple. Donc, oui, l'Église est mystérieuse, elle est non révélée dans l'Ancien Testament, elle est révélée que dans le Nouveau, mais que les nations soient bénies par Israël et vont participer à une bénédiction finale, ça fait partie de l'enseignement de l'Ancien Testament. C'était d'ailleurs le modèle après le déluge. Il y a la dispersion autour de la tour de Babel. Et Dieu choisit un homme, Abraham, pour être son témoin, mais dans le but de bénir toutes les nations de la terre. En toi seront bénies toutes les nations de la terre. Donc, le modèle qui avait été commencé avec Adam, Ève, Seth, etc., qui a conduit au déluge, ensuite on redémarre avec Noé, ça conduit à la tour de Babel, et donc Dieu choisit un homme, mais le but de ce choix, ce n'est pas une relation privée avec un seul peuple, le but de ce choix, c'est de bénir toutes les nations de la terre. Et c'est ce qui nous est ici rappelé. Donc les nations sont répétées ici quatre fois, six en tout, dans les quatre versets. Et le peuple juif, c'est celui-ci, en vert, et en jaune, c'est tout ce qui est nation ou autre peuple. Alors un verset très important, c'est celui d'Éphésiens 2 dans ce sujet, qui reprend exactement ce sujet. Mais maintenant, dans le Christ Jésus, vous qui étiez autrefois loin, vous avez été approchés par le sang du Christ. Donc vous qui étiez autrefois loin, c'est-à-dire gens des nations, vous avez été approchés par le sang du Christ, car c'est lui qui est notre paix. Des deux, il en a fait un. Donc les deux parties, juifs et nations, il en a fait un et a détruit le mur qui les séparait. Il y avait un mur de clôture, un mur mitoyen de clôture, un mur qui séparait les Juifs des nations. Il a aboli dans sa chair l'inimitié, donc grâce à sa souffrance à la croix, l'inimitié, donc le fait d'être ennemi entre Juifs et nations, ça a été aboli, la loi des commandements qui consiste en ordonnances, afin de créer les deux en lui-même, voilà, les deux parties, donc Juifs et nations, sont créées pour être un seul homme, c'est-à-dire le corps de Christ, c'est un seul homme créé par Juifs des nations, donc tous les chrétiens ensemble sont réunis en un seul homme, le corps de Christ, un homme qui est nouveau, et il a fait cela en faisant la paix. Et il a réconcilié avec Dieu tous les deux, mais tout de nouveau, les deux parties, Juifs et nations, en un seul corps, par la croix, ayant tué par la croix, l'inimitié. Donc le fait que les Juifs et les nations étaient opposés, eh bien, ça s'est tué par l'œuvre du Seigneur à la croix. Mais si je passe un peu de temps là-dessus, c'est parce que ça a une immense application pour les chrétiens, entre eux, pour les chrétiens qui se séparent, pour les chrétiens qui ne se parlent plus, pour les chrétiens où il y a de l'inimitié. Cette inimitié, elle est tuée par la croix. Le Seigneur unit en un seul corps les chrétiens. Et donc, quand nous les séparons, quand nous les divisons, quand nous ne nous parlons plus, nous faisons l'œuvre opposée de cette œuvre d'unification du Seigneur qui est vraiment fondée sur l'œuvre de la croix. Il a aboli dans sa chair l'inimitié et il a tué par la croix l'inimitié. Donc, ne laissons pas se créer des distances, ne laissons pas se créer des murs de séparation au sens de choses qui feraient que je crois que mon frère, ma sœur est un ennemi ou qu'il risque de me faire du mal. Il risque de me souiller ou je ne sais pas. Donc faisons attention à cela et rappelons-nous que le Seigneur nous a rassemblés en un seul corps par la croix, ayant tué par elle l'inimitié, donc tout ce qui nous opposait les uns aux autres. Et encore, Ésaïe dit, elle paraîtra, la racine de Jessé. Et il y aura quelqu'un qui se lèvera pour gouverner les nations. C'est en lui que les nations espéreront. Donc ce dernier texte est particulièrement beau parce qu'il parle de Jésus. Il est plein du Seigneur Jésus. Il est la racine de Jessé. Donc la racine de Jessé, vous vous souvenez que Jessé, c'est le papa de David. Donc quand il est la racine de Jessé, c'est comme pour dire qu'il est l'origine avant le papa de David et avant David. Donc il est avant, il est la source du roi David. La racine de Jessé. Il est aussi celui qui descend de David. Il est le rejeton. Il est celui qui porte du fruit, celui qui va sortir comme un rejeton, comme une puissance de vie qui sort. Et il est à la fois donc le père de David et il est le fils de David. On sait que c'est une question qu'il a posée dans les derniers jours avant la croix aux scribes, aux pharisiens, et que personne ne pouvait répondre, bien sûr. Donc elle paraîtra, il paraîtra, hein. C'est lui qui va paraître, mais c'est la racine de Jessé, donc il est à la fois l'origine de David et il est le descendant. Quelqu'un qui se lèvera. Et en lui, on espère. Donc, il est quelqu'un en qui on peut espérer. Et dans l'expression quelqu'un qui se lèvera, il y a même sa résurrection, puisque c'est anisthénie, ressusciter, se lever. Donc, il y a celui qui se lève ici et qui gouvernera les nations. Donc, c'est très beau de terminer notre lecture avec cette contemplation du Seigneur dans sa personne. Et dans le fait qu'il est l'objet de notre espérance, et il sera donc l'objet de l'admiration aussi des nations, de tous. Le Messie juif est l'espoir du monde entier. Et donc ça reste vrai aujourd'hui. Le Messie juif est l'espoir du monde entier. Voilà, nous arrivons au dernier verset de notre lecture, le verset 13 du chapitre 15. Notre espérance, Jésus pour les Juifs et les nations, il est notre espérance. Que le Dieu d'espérance vous remplisse de toute joie et paix en croyant, pour que vous abondiez en espérance par la puissance de l'Esprit Saint. Que le Dieu d'espérance vous remplisse de toute joie et paix. Espérance, espérance. D'abord, le sujet de la liberté chrétienne se termine par une seconde prière. Que Dieu, une seconde prière. C'est aussi la fin de l'enseignement de l'Épître. Donc on termine par une prière. Il est le Dieu d'espérance, de nouveau un beau nom. Tout à l'heure, on a vu qu'il était le Dieu de patience et de consolation. Ici, il est le Dieu d'espérance, et au verset 33 du chapitre 15, il est le Dieu de paix. Donc des très beaux noms de Dieu. Alors, qu'il vous remplisse et que vous abondiez. Ça, c'est des expressions qui sont pleines. C'est le cas de le dire. Et on pense à Jean 10. Moi, je suis venu afin qu'elles aient la vie. Les brebis, et qu'elle l'ait en abondance. Le Dieu vous remplisse afin que vous abondiez. La vie chrétienne est une vie heureuse, est une vie abondante. Ce n'est pas une vie médiocre, c'est l'inverse. C'est une vie abondante. Et l'Esprit Saint habite dans les croyants. Si vous pensez qu'ici vous avez le Dieu nous remplit par la puissance de l'Esprit Saint. Donc en fait, le Saint-Esprit habite dans les croyants, qui est bien sûr un des grands sujets de l'Épître, et on a eu tout le chapitre 8 en particulier, mais on a Dieu et le Saint-Esprit qui sont présentés ensemble ici et qui nous entourent dans ce verset, que le Dieu d'espérance vous remplisse par la puissance de l'Esprit Saint. Donc notre espérance à la fin est nourri par la puissance de l'Esprit Saint, Nous croyons, bien sûr, c'est par la foi, mais c'est le Dieu d'espérance et c'est la puissance de l'Esprit Saint. Nous sommes comme entourés ici, à la fin, dans cette prière, par Dieu et par le Saint-Esprit, qui est ici totalement mis au même niveau. Hein, ils sont présentés ici, Dieu et le Saint-Esprit, comme nous entourant. Et dans ce verset, et créant en nous cette vie abondante. Nous le relisons pour finir, que le Dieu d'espérance vous remplisse de toute joie et paix en croyant, pour que vous abondiez en espérance par la puissance de l'Esprit Saint. Et il y a aussi sûrement dans ce verset 13 un petit peu des éléments de résumé de toute l'épître aux Romains avec la puissance de l'Esprit Saint, avec la joie, avec la paix que nous avons par la foi, une vie abondante et un Dieu d'espérance qui nous remplit. Merci de votre attention. Je vous remets les éléments de bibliographie qu'on avait vus la dernière fois. J'en ai rajouté un depuis, mais voilà, on retrouve quelques documents intéressants et on peut ouvrir aux questions s'il y en a.
Alors, il y a une question. Verset 13 du chapitre 15, abonder en espérance. Veut-il parler de l'espérance du retour du Seigneur Jésus pour l'enlèvement ou le règne millénium, entre parenthèses?
Les deux, puisque l'espérance chrétienne contient les deux, bien sûr. Dans l'espérance chrétienne, il y a l'espérance de son retour pour les chrétiens, mais aussi de son retour en gloire pour le royaume. Nous nous réjouissons des deux événements et cela remplit nos cœurs et l'ascension, c'est le départ au ciel du Seigneur, avec les disciples qui contemplent avec leurs yeux et les anges qui disent, mais pourquoi vous regardez au ciel? Il va revenir. De la même façon, vous l'avez vu partir au ciel. Et donc, l'espérance chrétienne, c'est toujours les deux, à la fois d'être avec lui, peut-être dans le privé de l'Église, et à la fois se réjouir dans sa gloire, dans le royaume. Okay.
Tu as une autre question. Si la promesse pour les Juifs et pour nous, les nations, c'est la miséricorde, comment expliquer Galates 3, verset 29? Si tu veux, je peux lire le texte.
Oui.
Si vous êtes de Christ, vous êtes donc la descendance d'Abraham, héritier selon la promesse.
Oui. Il me semble que dans Galate, ici, dans le contexte, hein, vous qui avez été baptisé pour Christ, vous avez revêtu Christ, il n'y a ni juif, ni grec, ni esclave, ni homme libre, ni mâle, ni femelle. Vous tous, vous êtes un dans le Christ Jésus. Or, si vous êtes de Christ, vous êtes donc la semence d'Abraham, héritier sur la promesse. Donc, c'est un enseignement ici qui nous montre plutôt le côté qu'en Christ, vis-à-vis de du salut, vis-à-vis de l'éternité, vis-à-vis du plan de Dieu, tout le monde est mis au même rang. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de. Il n'y a pas de différence de niveau, tout le monde est absolument pareil. Et pourtant, il y a des différences historiques. Juifs et nations ne seront pas entrés au même moment. Et puis, dans le fonctionnement de l'Église, il y a des différences entre hommes et femmes, etc. Donc, on ne va pas dire, à cause de ce verset, par exemple, il n'y a pas de différence entre hommes et femmes. Ce verset, ça établit plutôt que tout le monde. Devant Dieu et sauvé de la même façon. Et c'est vrai qu'il termine en disant, ben, puisque vous êtes de Christ, hein, vous êtes un dans le Christ, donc vous êtes quelque part, vous participez à ce que Dieu avait promis à Abraham, puisque le Christ lui-même, il est descendant d'Abraham, Vous êtes donc, vous aussi, d'une certaine manière, semence d'Abraham. Vous êtes à l'intérieur de la famille et vous avez droit aussi à l'héritage. Donc, et tout le monde y a droit. Tout le monde y a droit, exactement pareil. Hein, donc, c'est plutôt ça, la pensée. Alors que dans notre texte, on avait plutôt un texte qui montrait deux populations, des différences, et le Seigneur qui les joint. Voilà. Mais...
Ok, merci. J'ai pas l'impression qu'il y ait plus de questions. Donc, je vais rendre la parole à Mathias. Merci beaucoup, Frédéric. Et
Merci à
Mathias, c'est
toi.
à toi.
Alors, merci Marco. Il va me rester à vous souhaiter une bonne soirée, une bonne après-midi en fonction de votre localisation. Merci Frédéric d'avoir été avec nous. Merci pour ton travail, pour ce que tu nous as apporté. Merci d'avoir été avec nous cette année, l'année dernière aussi. Et puis on va se retrouver dans 2 semaines avec un orateur qui a déjà été avec nous aussi l'année dernière. C'est Brad Dixon pour terminer cet épître aux Romains. Voilà, belle soirée. Soyez bénis.
Merci. Au revoir.